Et si nous devenions subtils?
Et si nous osions le devenir?
Bienvenue sur le canal de la subtilité.
La voix subtile.
Le podcast qui épouse
et questionne
le sens subtil de la vie.
Avec Ha Zheng, libre penseuse made in Haiphong, magicienne versée dans l'art de vivre, de jardiner des roses et de créer des liens.
Et Vincent Cespedes, philosophe et compositeur, made in Aubervilliers, sorcier de l'onde de charme, des mots qui brûlent et des idées neuves.
Dans ce troisième épisode, nous utiliserons un terme peu fréquent en philosophie, la magie.
Peu fréquent parce que peu rationnel?
Sans doute, car renvoyant à la superstition et aux pratiques occultes.
Le contraire des lumières et de la science?
Le contraire des religions du livre aussi. Pour ces religions, Dieu serait le seul maître de notre destinée et il nous faudrait accepter ses décisions.
Alors la magie ne serait qu'un rêve?
Une illusion?
Une erreur?
Une farce?
Une arnaque?
Il y a pourtant un lien évident entre magie et subtilité, leur douceur agissante, leurs bienfaits supposés.
Magie blanche?
Comme il y a aussi un lien entre magie et perversité.
Leur violence destructrice? Leur malfaisance?
Magie noire.
Et la magie jaune dans tout ça?
Elle reste à inventer.
La voie subtile peut-être?
La magie est l'argument des charlatans,
des illusionnistes,
des prestidigitateurs
ou des poètes qui l'invoquent dans un sens métaphorique.
La magie des rencontres.
La magie de l'amour.
Ah, la fameuse nuit magique que chantait Catherine Lara en 1986.
Ok.
Tout ça n'était qu'un jeu.
Ok.
On jouait avec le feu.
Ok.
On s'est prise au sérieux.
Ok.
Le rire au fond des yeux.
D'être magique, une vulgaire histoire de prostitution.
Nuit magique, pompe à fric.
Pas très féerique tout ça.
C'est que la magie, c'est ce qui, dans ce qui s'achète, ne s'achète pas.
Bien que ça compte plus que tout.
Ce qui ne se comprend pas.
Bien que ça explique l'essentiel.
Ce qui ne se contrôle pas.
C'est pour ça qu'il faut de l'audace pour s'y adonner.
Pour s'y abandonner.
Pour s'y brûler.
Les ailes?
Le cœur.
Le marché nous vend des produits dits magiques, des yaourts à la 6G en passant par tel dentifrice, telle crème anti-âge ou telle eau gazeuse, comme pour mieux nous détourner de la magie véritable.
Celle que le règne du quantitatif et du productivisme discrédite.
Celle dont on ignore les lois et les causes secrètes, mais pas les effets éblouissants.
Subtile.
La magie, l'efficace de la subtilité.
Cela reste à prouver.
Cela reste à oser.
Abracadabra, c'est comme ça que l'on dit?
C'est comme ça qu'on fait. Et en vietnamien?
Umbala.
Umbala, c'est joli.
Alors Vincent, prêt à oser la magie?
La magie jaune de l'Asie? Umbalali.
La magie rouge de la vie? Abracadabri.
C'est parti.
La voix subtile, le podcast qui épouse et questionne le sens subtil de la vie.
Avec le Umbala et avec le Abracadabra, donc des mots qui ne veulent rien dire et dont on imagine qu'ils ont quelque chose d'efficace dans le monde, on voit bien que la magie, ça commence là, c'est-à-dire comme si de simples mots, de simples formules magiques pouvaient directement agir sur le monde. Quelque part, il y a l'idée d'être fasciné par le pouvoir des mots. Je peux rendre triste quelqu'un avec des mots, je peux le rendre optimiste, je peux l'encourager, je peux le désespérer, je peux l'aimer. Je peux lui transmettre de l'amour. Toutes les émotions que nous pouvons transmettre à l'autre à partir des mots, c'est déjà en prémisse l'effet même de la magie.
Mais est-ce que c'est des vrais mots ou est-ce que c'est juste des sons? C'est quelque chose de très primitif, juste une crie qui appelle la magie. C'est pas forcément des mots, mais quand on prononce ça, du coup la magie arrive. Et c'est comme un rêve, non ?
C'est comme un rêve, et c'est aussi une possibilité de se coordonner en groupe. On peut imaginer que le simple fait de crier, ce qui permet d'alerter tout le monde d'un danger, c'est un peu magique. C'est-à-dire que tout d'un coup, un simple cri permet de prévenir le groupe. On voit bien que la magie, elle se fait d'abord en groupe. Elle se fait à travers cette émotion vitale que tout le monde doit avoir, par exemple l'émotion de la peur, pour fuir un danger. Tout ce qui va être de l'ordre du partage émotionnel touche la magie. Et c'est peut-être ça le point de départ de notre réflexion sur la magie, et ça rejoint la subtilité. La magie, c'est le partage de l'émotion à travers d'abord des mots, à travers des cris, à travers des bruits, la possibilité d'agir sur l'émotion de l'autre. Et on sait très bien d'ailleurs dans certaines magies pour faire du mal aux autres, eh bien il faut utiliser des mots qui tuent, des mots qui vont engendrer chez l'autre une croyance qu'il est possédé, qu'il a eu des mots toxiques qui vont le tuer ou qui vont l'amoindrir. Donc il y a l'idée d'une croyance dans l'efficacité du langage. Finalement, j'imagine bien que l'être humain a été fasciné par le langage lui-même, par la possibilité du langage de transmettre des émotions, et que du coup, la magie, c'est ça poussé au niveau le plus mystique. Qu'est-ce que tu penses sur les inventions techniques? Par exemple, la première fois qu'on a inventé, qu'on a trouvé le feu. Et est-ce que c'est un moment magique? Est-ce que c'est magique le feu? Ah bah, tout le monde le dit, tout le monde s'accorde à dire que le feu, il y a un grand philosophe qui s'appelle Gaston Bachelard qui médite sur la flamme d'une chandelle. Et c'est vrai que le feu a tellement changé la vie de l'être humain, la vie d'Homo sapiens, que évidemment on a affaire à de la magie. Pas tellement parce qu'on a inventé comment le faire, c'est vrai, frotter des silex, mais surtout parce que c'est un élément de la nature qu'on a réussi à maîtriser. Le feu, c'était quoi avant qu'on invente le feu? Le feu, c'était l'éclair qui tombe et qui met le feu à la forêt. Et tout d'un coup, l'être humain a pu maîtriser un élément de la nature. Et dans la magie, il y a toujours cette idée que les forces de la nature, tu arrives à les maîtriser. Effectivement, les inventions techniques nous donnent ce vertige-là.
Peut-être que ce n'est pas le fait de maîtriser la nature qui donne la magie, mais peut-être que c'est le fait de ne pas maîtriser la nature qui donne la magie. Parce que là, maintenant, on voit bien que la technologie nous emmène dans les endroits incroyables, jusqu'à le bombe atomique. Au début, à la fois magique pour les scientifiques, mais à la fin, ça devient un cauchemar pour l'être humain, parce que ça détruit tout. Et donc, où on peut définir la magie là-dedans, dans la technologie, en commençant avec le feu et en terminant avec le bombe atomique, comme un exemple de maîtrise la technologie et la nature?
Bah c'est la vraie question. La philosophie a été inventée pour trouver aussi les limites éthiques d'une pratique technologique. Günther Anders disait qu'à l'heure où on accumule les ogives nucléaires, l'éthique à Nicomaque d'Aristote, le vieux livre d'Aristote, n'a plus de valeur, parce qu'il faut que la philosophie accompagne la bombe atomique dans sa réflexion éthique. Les mots et la pensée doivent être à la hauteur des enjeux de la technologie. Michel Serres, un philosophe français qui se dédiait à la science. Et Hiroshima a été une sorte de choc philosophique pour lui quand il a vu qu'on était capable, que la science était capable de détruire et de créer une injustice suprême en détruisant des civils et des êtres humains. Et il s'est dit, je dois aussi faire de la philosophie. Rabelais disait, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça veut dire que si tu n'accompagnes pas la science de conscience, c'est-à-dire de pensée, de réflexion, d'intelligence, eh bien tu détruis l'âme humaine. Donc c'est très intéressant ce que tu fais, Ha, comme opposition ou complémentarité entre la technique et la magie. La magie, on a l'impression que c'est supérieur à la technique parce que ça n'utilise pas forcément la science. Quand on dit que quelque chose est magique, on ne dit pas que c'est toxique. Quand on dit c'est magique, il y a toujours l'émerveillement de l'enfant qui ne comprend pas comment ça fonctionne et qui s'émerveille. En fait, la seule réponse par rapport à un tour de magie, quand un magicien va faire un tour de magie, c'est pour ça que c'est un spectacle très apprécié des enfants, c'est de faire waouh, c'est de s'émerveiller. La magie, c'est ce qui nous laisse sans voix, parce qu'on ne comprend pas comment un prodige est possible, et pourtant, on l'a devant les yeux. Pour moi, le mot magie est forcément connoté plutôt positivement. C'est la limite de la rationalité, c'est quand je ne comprends pas, que je comprends qu'il y avait peut-être quelque chose à comprendre, mais que je n'arrive pas à savoir quoi, et que du coup je laisse en moi cette émotion fondamentale de l'être humain, la surprise, l'émerveillement, l'étonnement, ce point de départ, ce point d'interrogation, quelque part. Ceux qui ne croient plus en la magie, ceux qui croient que tout est rationnel, ont perdu cette capacité à l'émerveillement. Et quelque part, c'est l'enfant en eux qui est un peu mort.
J'ai des références dans la sagesse asiatique où on accepte beaucoup des zones d'incompréhension. Peut-être parce que la technologie se développe moins en Asie qu'en Europe. Donc du coup, on doit accepter toujours les zones d'ombre. Quand on ne comprend pas tout, du coup, il y a la magie. Du coup, il faut accepter les choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, du coup, il y a du vertige entre tout ça parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Et quand les choses sortent du contrôle des hommes, on met toujours la couleur de la magie dedans. Et c'est ça qui attire dans la vie, en fait. Du coup, j'ose dire que la magie est opposée à la technologie.
Et oui, la technologie s'explique, même si on n'a pas, nous, toutes les explications parce qu'on n'est pas savant. Mais pour le savant, pour la science, ça s'explique. Je suis d'accord, la magie, c'est ce qui est inexplicable, mais c'est aussi quelque chose qui explique, mais de façon un peu superstitieuse, de façon onirique, de façon rêveuse, de façon mythologique. La magie, c'est l'explication de ce qui n'a pas d'explication. La magie, c'est l'illusion que quelque chose peut contrôler ce qu'on ne contrôle pas. C'est le contrôle fantasmé. Il y a le vrai contrôle, je peux contrôler des choses du monde. Et puis, il y a les choses que je ne peux pas contrôler. J'imagine qu'elles sont tout de même contrôlées par quelque chose de supérieur, une divinité, un dieu, un esprit. Je disais avec la pensée asiatique, peut-être que c'est l'absence de technologie aussi poussée qu'en Occident qui développe une pensée magique. Mais c'est aussi la jungle, c'est aussi le rapport à la nature. Il y a beaucoup moins de magie quand on est en ville, dans des grandes mégapoles, que quand on est en osmose avec les puissances de la nature, l'eau, le vent qui nous parle, les plantes, les animaux. Tout ce contact avec la nature, d'ailleurs, des mouvements de magie moderne, néo-païen, on dit, un des mouvements, c'est la Wicca. La Wicca, W-I-C-C-A, c'est cette idée en fait, on voue un culte profondément à la nature, et c'est pas pour rien que ce mouvement est né en opposition avec la technologie, avec les grandes villes, les grands centres urbains, et avec toute cet univers de production, de consommation, qui va enlever l'âme humaine. Finalement, la magie, c'est le retour en force de l'âme humaine. L'âme, dans toute sa poésie, dans tout son rapport avec l'ineffable, avec ce qu'on ne peut pas dire. Éduquer quelqu'un, faire acte de pédagogie, c'est aussi un peu magique. On utilise les mots pour augmenter sa connaissance. On utilise les mots pour augmenter sa confiance en lui. On utilise des mots pour l'encourager. Moi, je suis de plus en plus sensible à l'encouragement.
Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront, et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme sert à canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Il est écrit dans l'Évangile selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain, ni dans un groupe d'humains, mais dans tous les humains, en vous. Vous, le peuple qui avez le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur, vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir, il faut tous nous unir, il faut nous battre pour un monde nouveau, décent et humain, qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse la sécurité. Ces brutes vous ont promis toutes ces choses. Pour que vous leur donniez le pouvoir, ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le feront. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais s'ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous !
On passe notre temps à nous encourager ou à nous décourager les uns les autres. J'utilise les mots et quand je dis à quelqu'un « ton rêve c'est n'importe quoi, tu vas dans le mur », mes mots vont décourager l'autre. Et quand un enfant qui n'ose pas trop faire quelque chose, je l'encourage, je lui dis « allez, tu es capable, vas-y ». J'utilise les mots et je renforce sa confiance en lui, et en renforçant sa confiance en lui, il va vraiment pouvoir faire ce qu'il ne faisait pas. Ma fille de 3 ans était dans un square hier, et elle devait essayer d'atteindre un petit bord dans un jeu, et elle n'y arrivait pas. Et elle pleurait, à chaque fois je la portais et je la mettais dessus. Mais à chaque fois elle me demandait de l'aide. Elle n'arrivait pas physiquement, parce qu'elle est un peu maladroite, elle a 3 ans, elle n'a pas assez de muscles, pas assez de force, mais surtout parce qu'elle ne croyait pas en elle, parce que c'était faisable. Et à un moment, je l'ai encouragée, je me suis dit, tiens, je vais arrêter de la porter à chaque fois, ça m'ennuyait, j'avais envie d'être sur mon banc tranquillement et à méditer. Et donc je lui ai dit, tu es capable, vas-y. Donc elle a essayé, elle est tombée une fois, elle a pleuré, elle s'est remise, et à la fin, elle y arrivait parfaitement. Et je l'ai encouragée, par la seule force de lui dire, tu es capable, de reconnaître la capacité qu'elle avait, alors qu'elle-même ne la reconnaissait pas pour elle-même. Je reconnais que tu es capable, je reconnais que tu es capable, et quand tu y arrives, je te dis bravo, je t'encourage et je t'applaudis. En fait, on voit bien que c'est ça l'essence de la magie. La capacité d'augmenter notre pouvoir sur le monde à travers la force collective. Moi, j'étais la force collective pour ma fille, j'étais l'autre, et je lui disais, je juge en tant que papa que tu es capable de le faire, et ça te donne la capacité de le faire. Moi, j'insiste sur ce qu'on appelle en magie l'égrégore. L'égrégore, c'est quoi ? C'est la force collective, c'est l'énergie spirituelle qui va, par exemple, quand on voit au football ou qu'on voit une grande messe ou un grand rituel. On a parfois, quand on est tous ensemble et qu'on se tient la main, qu'on fait des rituels magiques, on a cette puissance supérieure qui vient du groupe lui-même. On s'encourage tous, on est en communion, tu vois. La magie, c'est peut-être ça aussi, c'est le fait d'être ensemble et d'être plus fort ensemble que si on était tout seul. C'est de rencontrer l'être humain dans ses capacités psychiques, tout simplement.
Je trouve que c'est très juste ce que tu as dit. Que la magie, c'est par le groupe, c'est évident parce que on ne peut pas témoigner la magie toute seule. Enfin, on a tout de suite à avoir envie de raconter et de faire circuler parce que une fois la magie existe, il faut qu'on partage. Quand on est sûr et certain et on veut vraiment tout maîtriser, il n'y a plus de place pour la magie. Mais quand on collectivement rêver ensemble pour atteindre quelque chose, juste comme tu as dit que ta fille peut monter dans un jeu. En fait, il y a quelque chose comme une croyance collective, qu'il y a beaucoup dans l'histoire, il y a beaucoup de religions en fait qui en profitent pour créer quelque chose de l'ordre perversité. Mais en réalité, les croyances saines de subtilité provoquent pour moi la politique. Si la technologie est opposée de la magie, la politique, dans le sens plus noble du terme, crée la magie collective. Parce que là, du coup, on peut rêver véritablement ensemble d'une future, un avenir meilleur.
On peut changer le monde.
Effectivement, de changer le monde, de donner le sens par les mots au monde. Et de transmettre l'émotion. Et je pense à une fois, j'ai visité pour la première fois la grotte de Lascaux. J'ai vu des dessins sur les parois de la grotte et c'était vraiment émouvant. Et là, je pensais à ça parce que je pense que la magie, c'est ça. La magie, c'est la création, c'est quelque chose de nouvel, mais pour transmettre l'émotion. Et du coup, tous les autres aussi sont là pour admirer ce dessin et oublier que l'extérieur, c'est encore l'hiver, c'est encore le danger des tiques, le danger de la nature très cruelle à cette époque. Et du coup, ils ont rêvé ensemble. Et on a jusqu'à maintenant, en fait, c'est pas la technologie, mais c'est la magie.
On est déjà dans l'ordre du symbolique. Et la magie, finalement, nous fait penser que la réalité humaine n'est pas simplement ce que l'on a devant les yeux, comme pour l'animal. La réalité humaine, c'est aussi ce qu'on pense, ce qu'on en dit, les échanges, tout un univers symbolique. La réalité humaine, c'est pas simplement les choses physiques que l'on a devant les yeux. C'est la capacité de les dire, c'est la capacité de les dessiner, c'est la capacité de les symboliser. Et du coup, c'est aussi la capacité de la patience. Si j'arrive à dessiner un gibier sur une paroi de grotte et après le chasser, finalement je me prépare, finalement j'invoque les dieux de ce gibier. Et donc je suis dans une sorte de patience, contrairement à l'animal. L'animal, finalement, c'est Bergson qui en parle très bien, je peux même le citer. Bergson écrit ça, philosophe français, « Ce qui constitue l'animalité, c'est la faculté d'utiliser un mécanisme à déclenchement pour convertir en action explosive une somme aussi grande que possible d'énergie potentielle accumulée. » L'animal, il accumule de l'énergie, il dort, il se repose, il mange, et à un moment, il va pouvoir déclencher toute l'énergie emmagasinée pour aller chasser la gazelle, pour aller sauter sur sa proie. L'être humain, lui, c'est pas un déclenchement automatique. Il a ça, bien sûr, nous sommes aussi des animaux. Mais nous pouvons déclencher en maîtrisant l'énergie que l'on met dans quelque chose. Nous pouvons réfléchir à nos actions. Nous pouvons réfléchir à notre capacité de nous investir à fond dans quelque chose ou au contraire de nous retenir. Et donc, on a cette capacité de patience. On peut attendre. La subtilité, c'est savoir attendre. C'est ne pas répondre de façon mécanique, automatique comme l'animal. C'est savoir attendre, mettre des graines dans le sol, les faire germer, attendre le bon moment. Quelqu'un qui va réagir comme un animal ne peut pas être subtil. C'est savoir retenir son énergie, ne pas tout donner d'un coup. C'est savoir calculer son énergie. La perversité d'ailleurs fonctionne aussi comme ça, c'est la capacité aussi d'attendre. Mais dans les deux cas, on utilise notre puissance humaine symbolique pour pouvoir choisir le meilleur moment.
La voix subtile, le podcast qui épouse et questionne le sens subtil de la vie.
La notion de bon moment, c'est très important dans la pensée asiatique, notamment nous, les Vietnamiens. On juge que le bon moment est essentiel il faut prendre en compte trois facteurs: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ça veut dire que le ciel donne la faveur, la terre donne la faveur et les hommes sont en harmonie avec tous les facteurs. Donc du coup, là, c'est un bon moment où on peut réagir. Et la magie arrive de cela. Il y a tous les facteurs et d'un seul coup, ça se rencontre et ça donne quelque chose d'incroyable, inexplicable et peut-être... c'est quelque chose qui vit en nous de génération en génération aussi. C'est quelque chose dans l'ordre inconscience. C'est aussi la pensée vietnamienne qui dit qu'on a plusieurs vies, en fait. C'est très connu. C'est très magique. On a une autre vie avant nous et on a une autre vie devant nous aussi. Et du coup, ça peut pousser très, très, très fort jusqu'à la suppétition. Mauvaise, perverse, mais la subtilité, c'est vraiment choisir le dosage de cette croyance. Tout le monde me demande, les amis français, quand ils savent que je suis vietnamienne, la première question dans les soirées, souvent, c'est que est-ce que tu crois qu'il y a des âmes, il y a
des esprits,
J'ai dit que est-ce qu'on peut tout maîtriser? On est juste quelqu'un. Un être humain dans un tout petit espace, dans un tout petit durée de temps, comparé avec tout l'univers, le cosmos, etc. On ne sait pas. On ne sait pas, mais entre croire à la magie et ne pas croire, qu'est-ce que ça te donne? L'énergie, l'amour pour la vie, la joie de la vie. Ben, je pense que c'est croire à la magie. Il faut choisir la magie pour y croire sans trop y croire. Ça veut dire que je sais que je ne sais rien. Je pense que beaucoup de philosophes pensaient comme ça. Donc du coup, j'y crois que tout est possible. Mais il ne faut pas appuyer là-dessus pour vivre. Je ne sais pas si je suis claire.
Oui, c'est très clair. C'est-à-dire que je sais que c'est une croyance. Je ne dis pas que c'est une connaissance. Pour ne pas tomber dans la superstition et puis dans la manipulation, ce que tu dis est très clair. La magie, c'est une sorte de conception où le possible demeure. C'est-à-dire qu'il y a toujours du possible, du différent possible. Et donc de l'espoir. S'il y a du possible et de l'imprévisible, il y a de l'espoir. À partir du moment où tout est sous contrôle, et le sommet du contrôle politiquement, bah, c'est la technocratie, c'est le dieu ordinateur qui décide du destin des êtres humains. C'est les êtres humains qui sont dépossédés de leur puissance politique, qui sont dépossédés de leur puissance de choix. Et finalement, peut-il y avoir de la démocratie sans magie? J'en doute. Une démocratie qui serait technocratique, purement fonctionnelle, purement rationnelle, sans émotion, sans affect, sans colère, sans révolte, sans espoir, sans volonté de dépasser les injustices, ce serait une démocratie de robots, une démocratie morte. Ce ne serait pas le démos, le peuple, mais ce serait des êtres humains suradaptés à un système. Et j'ai l'impression qu'il y a une immense puissance aujourd'hui de vider la magie de nos vies et de nos existences en nous vendant de la soi-disant magie. Toutes les publicités nous vantent de la magie, mais en fait, ça nous dépossède de la magie. Ils nous vendent que de la technique, le nouveau smartphone, le nouveau gadget, voilà. Et on nous promet que la magie est possible à travers des biens de consommation, alors qu'en fait, c'est exactement la croyance dans les vertus des biens de consommation qui tuent la magie. Et la magie, c'est des gens qui discutent dans une pièce et qui changent le monde. La magie, c'est des gens qui sont dans la rue et qui vont exprimer leur colère, leurs rêves, leurs aspirations différentes. Donc, ce qui fait peur pour la technocratie, c'est justement un peuple magique, un peuple qui est capable, par la philosophie, par la pensée critique, par le dialogue, par le fait de dire nos problèmes sur la place publique, de dire nos affects et de trouver par un égrégore, de trouver par une force collective spirituelle, politique, des solutions, des possibilités de solutions. Et ça, ça fait peur au système technocratique. Qui a le plus peur de la magie ? C'est l'ordinateur. L'ordinateur prétend produire de la magie, mais il ne fait que calculer des 0 et des 1. Alors que l'être humain, justement, et le cerveau humain est fait pour qu'il y ait... D'ailleurs, on ne comprend pas comment le cerveau humain fonctionne, parce qu'il y a de la magie qui est créée. Donc, finalement, ce qui fait peur à un univers technocratique de consommation, c'est une sorte d'anarchie humaine, c'est-à-dire d'absence de hiérarchie, d'absence d'organisation hiérarchique de la société, mais la possibilité aussi de s'associer entre êtres humains à travers l'amour, à travers l'émotion, du lien et de l'amour. On discutait, toi et moi, quel pourrait être le mot pour trouver cette anarchie fondée sur l'amour humain, fondée sur l'amour humain du partage et de faire de la magie ensemble à travers l'intelligence, à travers l'émotion. Et on a trouvé ce beau mot, ce beau néologisme de philarchie. La philarchie, qu'est-ce que c'est ? Philo, ça vient de aimer. Et puis, archos, c'est le principe. La philarchie, c'est l'anarchie qui crée quand même des formes d'organisation à travers le fait que l'amour circule entre les êtres humains. Ça pourrait paraître utopique, ça l'est, mais on peut imaginer un système où les choses ne sont pas réglées selon les intérêts individuels, les égoïsmes, les fonctions de chacun, chacun dans son poste, dans son rôle, mais au contraire, quelque chose qui soit basé sur le fait que la magie naît quand deux êtres humains se rencontrent et décident qu'ils participent d'une humanité commune. Et c'est ça la philarchie. Ce n'est pas du tout la philocratie qui est l'amour du pouvoir. Ce n'est pas du tout la philotimie qui est l'amour des titres, l'orgueil. La philarchie, c'est le pouvoir de l'amour lui-même. Sans magie, ce n'est pas possible. Sans cette transmission d'intelligence, de parole et d'émotion, ce n'est pas possible. Et quand tu parlais des vies successives qu'on imagine notamment avec le bouddhisme et avec la pensée, une certaine pensée asiatique, bah finalement c'est ça. Si je crois que dans des vies antérieures j'étais quelqu'un d'autre, du coup l'autre n'est plus vraiment autre, il peut être moi, l'autre que j'ai en face de moi, je peux être l'autre.
En fait, on a parlé de la politique. C'est bizarre, hein. Quand on a dit qu'on a parlé de la magie, j'attendais pas du tout qu'on arrive à parler de la politique. Et tout le monde croyait que la technologie va nous sauver. Mais en fait, non. Plus qu'on avance dans la technologie, plus qu'on tue la magie. Donc, pour moi, la magie, c'est l'humanité. C'est l'émotion qui se connecte. Ça enlève le côté de culte de l'argent, de consommation. C'est pas ça le but, en fait, pas du tout. L'amour universel devient quelque chose de magique parce que on a la capacité d'aimer n'importe qui. Ça, c'est la magie. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe véritablement dans ce monde immense, dans ce cosmos. Je me souviens encore quand j'étais jeune, très jeune, et j'ai fait les visites des pagodes avec ma mère. En printemps, les Vietnamiens font toujours ça. Et pendant 3 jours, on vit dans un autre monde. On a coupé le lien avec le monde réel et on entre dans un monde spirituel. Une fois, je ne sais pas pourquoi. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas. J'ai pleuré dans une pagode et je ne veux pas quitter ce lieu. Et il y a une fille, une femme un peu chef de ce groupe, elle a un peu le pouvoir magique. Et elle a expliqué que dans ce lieu, il y a mon père de ma vie intérieure qui m'a retenue, qui ne voulait pas que je quitte le lieu. Et j'ai vécu par moi-même, moi, quelqu'un qui n'est pas dans la superstition, qui n'est pas dans les croyances, qui veut juste comprendre la culture des croyances vietnamiennes. Du coup, je dois y croire, quoi. Parce que les larmes tombent comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Et à partir du moment là, j'ai décidé qu'il y a des choses magiques autour de nous. Il faut juste les accepter et ne pas être obsédé par ça. Et ça va marcher. Et il faut croire au hasard aussi, en fait. Et il ne faut pas toujours avoir envie de tout maîtriser, de tout gagner. Parce que aujourd'hui, on peut considérer qu'on gagne quelque chose, mais en fait, c'est peut-être mauvais pour de demain. Donc, on ne sait pas. Il y a une force de magie de l'être humain, comme tu as dit, une force commune, non seulement par l'espace, mais aussi par le temps. Peut-être nos ancêtres nous ont laissé quelque chose dans notre corps, dans notre microbiote et l'eurobiote, comme ton concept que j'adore. Et du coup, il y a l'amour qui circule. Et quand l'amour qui circule devient une raison, réunir les gens et gérer la société, et du coup, on rejoint la philarchie.
Et nous sommes tous philarques, c'est-à-dire nous sommes tous capables de constituer cette magie du lien, cette magie de l'amour. Et j'aime beaucoup ce que tu dis dans l'idée que c'est l'amour universel. Je pense qu'il faut qu'on cultive tous cette capacité philarchique, cette capacité de créer de l'organisation, de créer des rêves politiques, de créer des combats politiques à travers les liens. Peut-être que c'est de ça dont notre démocratie a besoin. Qu'on développe la philarchie, c'est-à-dire cette organisation à travers des liens. Tu me disais, en fait, on a tué, parce que tu es en France depuis moins d'un an, là, tu habites en France depuis moins d'un an, et tu disais, en France, je vois qu'il n'y a pas de vie de quartier, en tout cas à Paris. Il n'y a pas cette vie de quartier qui fait que tout le monde parle de choses banales, en bas de l'immeuble, en bas de la maison, et on partage un espace commun. Et la magie, elle est peut-être là. Elle est peut-être dans le fait de partager des mots de tous les jours sur la météo, sur un problème qui vient d'arriver dans la rue d'à côté, et connaître les citoyens. Je rappelle que le mot philia en grec, c'est l'amour de partager la même cité, la même ville. C'est donc philarchie, le mot amour de philarchie, hein, l'idée d'une organisation par l'amour, d'une politique de l'amour, eh ben, c'est l'idée qu'on partage le même lieu, la même cité. Et ça, on l'a perdu, contrairement au Vietnam, j'imagine.
Ben oui, heureusement, on a encore cette ambiance. Mais j'ai peur que ça va se perdre. Je voudrais vraiment insister que c'est le capitalisme qui nous met derrière les portes, qui nous confine chez nous, dans nos maisons, dans nos appartements, dans les boîtes. Et il n'y a plus de magie, il n'y a plus de...
Circulation.
Il n'y a plus de circulation, mais aussi il n'y a plus de la beauté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vraiment tracé les lignes. Si tu vas aux États-Unis, c'est pire. Enfin, ça, c'est vraiment l'exemple extraordinaire pour voir comment ils ont tracé des rues, des immeubles, des c'est pas des rues d'ailleurs, c'est des routes en fait, pour mettre les individus dans les boîtes comme ça. Et nous, les êtres humains, avec plein de ferveur, de la passion, de lien, de mélange, etc., devient les individus tout froid entre eux et devient quoi? Devient les consommateurs, tout court. C'est horrible parce que du coup, on perd tout le magie, on perd le contre-pouvoir, on n'arrive plus à discuter entre nous. Donc, comment on fait si la magie, on n'a pas à mettre ensemble, ça ne devient pas du tout la magie, ça devient juste un rêve de jus d'orange le matin et de voiture,
la
dernière, oui, des écrans, et là c'est vraiment horrible. Du coup, je vois très clairement que on est en train de tomber dans notre propre piège. Pourquoi je dis propre? Parce que c'est les êtres humains, tout ça. Donc il faut vraiment qu'on sache quels sont nos problèmes de maintenant. Qui, quoi, tue la magie dans notre âme? Qui, quoi, tue la magie collective? Et la politique doit redevenir la magie collective pour rêver de demain. C'est pas pour rêver juste une voiture. Et il y a mon fils qui m'a dit, mais maman, la publicité en France, c'est que la voiture, voiture, voiture. Mais qu'est-ce qu'on est obsédé par la voiture? C'est incroyable. Et entre tout ça, il y a un mot très important que toi, tu as créé, que je veux te rappeler. C'est sensé. Le verbe sensé, c'est S-E-N-S-E-R. Ça veut dire que donner le sens à tout ce qu'on vit. Et si on arrive à comprendre pourquoi on est là, pourquoi on ne doit pas accumuler pour avoir une voiture, avoir le jus d'orange le matin. D'ailleurs, c'est très mauvais pour la santé, j'insiste. On peut avancer vraiment dans notre histoire humaine.
Et dans notre histoire collective.
La voix subtile, le podcast qui épouse et questionne le sens subtil de la vie.
Finalement, c'est une forme de résistance par la magie à l'univers qui perd sa magie. La subtilité, finalement, c'est revenir à la magie. Revenir à la magie, remettre de la magie. Comment tu articules, toi, la subtilité dans tout ça?
Moi, je pense que c'est très cohérent, parce que la subtilité n'est jamais dans les traits. C'est jamais dans quelque chose clairement dit, clairement fait. C'est pas la technologie. La subtilité, c'est toujours dans l'âme, dans le mouvement où on ne sait pas où on va, mais on y croit parce que on sait qu'il y a une force de survivre. Et maintenant, je pense qu'on doit être dans l'énergie de subtilité pour combattre contre la bêtise.
J'aime beaucoup l'idée que la subtilité doit combattre l'énergie bête, c'est-à-dire une énergie d'individu. Pourquoi la voiture, tu disais? La voiture, c'est que tu es tout seul dans un univers et tu te crois fort et tu es contre les autres. Il n'y a pas de lien en voiture. Le lien est coupé dans la voiture.
Et à partir de Darwin, tout le monde croyait que le monde se développe en compétition. Mais en fait, non. C'est pas du tout en compétition.
C'est l'entraide.
C'est l'entraide, c'est le réseau. C'est
l'amour.
Exactement,
c'est l'amour.
C'est l'un qui pousse pour pousser l'autre. Et pour donner à manger à l'autre. Enfin, à la limite, tous les échelles de nourrir l'un à l'autre, c'est beau, c'est magnifique, parce qu'il faut avoir les gazelles pour nourrir les lions. Et la gazelle, peut-être, elle est fière dans son rôle dans la nature. Parce qu'il y a d'autres razens qui arrivent, et c'est ça la diversité. Il faut arrêter d'être unique au monde. Il faut arrêter d'être survivre pour rien. il faut vraiment vivre pour demain. Donc, c'est pour ça que c'est drôle, l'idée subtilité que la razelle est fière d'être mangée par le lion. Mais tu vois, c'est ça la subtilité. Ça fait toujours rire, ça fait toujours... Waouh, c'est une surprise énorme. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que sinon, comment on reste dans la diversité? Si on dit que le lion, c'est la force des tueurs, ben, on va tuer tous les prédateurs. Enfin, tu vois, ça reste pas du tout dans la diversité. Donc, chacun y a un rôle dans ce monde. Et le lien qui nous lie tout, c'est l'amour. Et si on est conscient de ça, on va construire quelque chose de très beau pour notre monde. Je suis vraiment très heureuse de notre mot « philarchie ». C'est beau. Le commandement universel de l'amour, pour l'amour, pas l'amour.
T'as raison de préciser universel parce qu'il ne s'agit pas de réserver la philarchie à un groupe défini comme l'aristocratie, le gouvernement de l'élite autoproclamée, noblesse, élite, gouvernement des prétendus meilleurs, aristoi en grec, ou l'oligarchie, le commandement de quelques-uns.
Et par son principe même, l'amour des autres. La philarchie s'oppose aussi à la monarchie, le commandement d'un seul.
Ce qui est fou, incroyable et donc en un sens magique, c'est qu'en plus de 2 millénaires de philosophie occidentale, ce mot si simple, si évident, philarchie, n'a jamais été inventé, encore moins conceptualisé.
Un mot tout neuf, rien que pour nous.
Un mot de renaissance, si nous le dotons de bases philosophiques solides et fécondes. La philarchie, c'est le régime politique de l'hospitalité humaine contre les hostilités identitaires.
C'est la subtilité dans sa force liante, tisseuse de complicité au-delà des cultures, des différences, des âges et des frontières.
Oser la magie, c'est oser travailler pour l'avènement de la philarchie, la révélation de la solidarité humaine. Par-delà les États, oser déjouer les propagandes, les haines fabriquées ou héritées.
Déjouer la haine qui sépare l'humain de l'humain.
Jardiner les graines subtiles de l'amour.
Au fond, suivre la voie subtile mène à la philarchie. On a donc un but politique à forger.
Oui, la philarchie, ce serait la démocratie qui utilise notamment l'intelligence connective de la cybermodernité pour internationaliser l'émancipation.
Contre les exploitations de toutes sortes.
Contre l'idée même d'exploitation. Car c'est bien l'idée de guerre de tous contre tous que la philarchie désactive et déconstruit.
Pour faire de l'amour l'autorité suprême.
L'élégance suprême.
La condition de notre humanité.
De notre dignité.
De notre possibilité.
Carrément.
Oui, Vincent, je suis une philarque radicale.
Une philarchiste aussi, partisane du philarchisme, la théorie politique de la philarchie.
J'ai l'impression que tout ce qui est magique entre les humains est philarchique. Simplement, avant notre discussion, on ne le savait pas.
Mais face à l'inhumain, face à la barbarie déshumanisante, face au crime, face à l'injustice et à l'horreur, comment rester philarchiste malgré tout?
D'abord en agissant en philarque, en détendeur et diffuseur de l'amour universel.
Philarque malgré la catastrophe.
Face à la catastrophe.
Philarque face à la cata.
Ah, ça sera notre prochain épisode, face à la cata.
Ça sonne comme abracadabra.
C'est l'exact opposé. Tout s'écroule.
Tout désémerveille.
Tout nous révulse.
Tout nous violente.
Et pourtant, nous devons survivre.
Sauver l'humain.
Sauver la philarchie.
Sauver l'amour.
Chers auditeurs philarchistes, c'est le moment de laisser des mots d'amour et de lâcher des cœurs.
La voix subtile est disponible sur toutes les plateformes. Alors si vous l'empruntez, pensez à partager à ceux que vous aimez.
Merci Vincent pour la création musicale et la réalisation magique de cet épisode.
On a évité la bracadabrantesque.
On a avancé vers la magie jaune.
Et rouge.
À petits pois.
À bientôt, chers amis de l'esprit de finesse.
À bientôt, chers complices de la non-violence.
Et d'ici là,
rendez
délicatement
heureux.